Bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, merci à David et à la louange. On appelle aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme de louangeur. Je ne sais pas si vous avez entendu les louangeurs, ceux qui mènent la louange. Je suis venu avec une partie de ma famille. Il y a mon épouse Pachoa qui est là, et nous avons 5 enfants. Et nous sommes venus avec 2 des 5 enfants. La grande, Lana, et la dernière fille, Lisa. Et puis, il en reste 3 à la maison. Et c'est ma mère qui les garde. Je suis venu, on m'a invité, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai donné un message, mais j'étais debout ici, et je crois que les chaises étaient dans l'autre sens. Hein, c'est ça? Alors, ça fait déjà longtemps. voilà, la dernière fois que j'étais venu, j'avais déjà dit que, géographiquement, j'étais proche de Saint-Maur, car moi je suis né à Créteil et j'ai fait mes classes prépa à Saint-Maur au lycée d'Arsonval. Et maintenant j'habite Corbeil-Essonne, donc ça reste l'Île-de-France, le Grand Paris aussi. Et je suis vraiment content d'être avec vous, de voir des têtes que je connais bien, qu'on se voit aux journées fraternelles, Clément, Alain, David, etc. Bien, c'est drôle que le forum des évangélistes ait abordé ce livre des Actes aussi, Actes 11. C'est vrai qu'on a beaucoup d'apprendre des chrétiens d'Antioche. Cette première église formée quelque part de non-juifs et appelée chrétien. C'est le thème d'aujourd'hui. J'aimerais nous encourager à se remettre en question, mais aussi à être encouragé, bien sûr, dans notre marche avec le Seigneur. Et je vais lire le passage, Actes 11, versets 19 à 30. Et je lis dans une version qui est un peu différente de celle qui est projetée. Je lis dans la version dite de la Summer. Acte 11, versets 19 à 30. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, certainement des proches de Simon de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et ils enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et il prédit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. On peut prier, hein, même si David a déjà prié, je pense qu'on peut remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, avant d'entrer dans la méditation de ta parole, nous avons une pensée pour Fanny, cette missionnaire au Sénégal qui est rentrée et en qui on a trouvé un cancer. Nous avons à cœur de te présenter cette sœur et te demander de la bénir. Et nous voulons dire à nouveau que nous croyons que tu es le Dieu souverain, Seigneur du ciel et de la terre et de nos vies, et que sa vie est entre tes mains. Nous te prions de l'accompagner, de la guider. Nous te demandons la guérison aussi, si cela est ta volonté. Mais en toutes circonstances, nous nous en remettons à ta souveraineté. Merci pour les témoignages des uns et des autres, et merci pour ce temps précieux qui est la méditation de ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous dirige, qu'il nous guide, qu'il nous transforme, qu'il nous enseigne et qu'il nous éduque. Que tu puisses nous guider au long de cette réflexion, nous te le demandons humblement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec ce message, j'aimerais donc nous parler quelque part d'un fait historique, hein, puisque le passage le dit, c'est la première fois qu'à Antioche, des disciples de Jésus sont appelés chrétiens. Et Luc, l'historien, qui a écrit le livre des Actes, voulait marquer le coup en donnant cette précision. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Y a-t-il des chrétiens dans la salle aussi ? Et y a quelqu'un qui a levé la main en fond. Bravo, tu fais partie des 2,4 milliards de personnes sur Terre qui se réclament du christianisme. Et c'est vrai que le christianisme reste la première religion au monde devant l'islam avec ses 1,7 milliard de croyants. Mais c'est quoi être chrétien aujourd'hui ? C'est quoi ? Alors on pourrait tout simplement ouvrir un dictionnaire et lire la définition chrétien, c'est celui qui appartient au christianisme. Chrétien, c'est celui qui adopte un comportement généreux, supposé conforme aux préceptes de la religion de Jésus-Christ. Est-ce que cela correspond à ce que vous êtes, chrétien ? Ou alors, on pourrait prendre la piste des synonymes. Alors, chrétien, ça veut peut-être dire, comme le texte le dit, disciple de Jésus-Christ. Voilà, être chrétien, c'est ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, les sauvés, les saints, les élus, etc., etc., la piste des synonymes. Mais alors, ça veut dire quoi, être disciple, être saint, etc. On entre dans une série de discussions, de questions sur le terme d'être chrétien. C'est vrai que le terme chrétien dans la Bible n'est employé que trois fois. Ici, dans Actes 11, et ce sont les non-chrétiens qui parlent des chrétiens. Une autre fois, dans Actes 26, le mot est mis dans la bouche du roi Agrippa, qui dit « Paul, tu vas bientôt me convaincre d'être chrétien ». Et une dernière fois, dans 1 Pierre, qui est utilisé par l'apôtre Pierre, pour dire « Si vous souffrez d'être chrétien, n'ayez pas honte ». Ouais. Donc c'est vrai que le terme de chrétien n'est pas si répandu que ça dans le Nouveau Testament. On parle plutôt des disciples, des saints, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même un terme qui est très utilisé et qui est très en vogue. Et beaucoup se réclament du christianisme et qui se disent être chrétiens. Pourquoi est-ce que dans ce passage, ces personnes qui sont à Antioche, on leur donne le nom tout à coup de chrétien? Qu'est-ce qui, dans leur vie, qu'est-ce qui a changé dans leur vie pour qu'on puisse les appeler des chrétiens? Et est-ce que ce qu'ils ont, eux, pour mériter quelque part d'avoir le nom de chrétien, est-ce que nous aussi on l'a dans notre vie? Alors, il me semble qu'il y a trois choses, trois caractéristiques sur lesquelles je voudrais appuyer, pour lesquels ces personnes sont appelées chrétiens. Et je crois que nous pouvons utiliser ces caractéristiques-là comme un miroir pour voir si est-ce que nous aussi on reflète un peu ces caractéristiques-là dans notre vie. Et bien sûr, à travers ce passage, je vais vous expliquer un peu qui je suis. Même si David a dit qu'on se connaît, je vais quand même vous donner quelques témoignage de ma vie aussi, comment moi aussi j'ai avancé avec le Seigneur. Tout d'abord, je pense qu'ils sont appelés chrétiens, ces personnes-là, parce qu'ils se sont convertis à Jésus. Ils s'appellent chrétiens parce qu'ils se sont convertis à Jésus. Le verset 20 et 21 nous dit que quelques-uns d'entre eux, donc des Juifs, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, ils vont à Antioche, ils s'adressent aux non-Juifs et ils leur annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et ils se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Alors croire, c'est bien. Le verset le dit, il n'y a pas de souci. Mais ils se convertissent en plus. Il y a quelque chose qui vient en plus de la foi, la conversion. Et le mot conversion, enfin en tout cas dans ce passage-là, il signifie, vous l'avez certainement déjà entendu, qu'on fait un demi-tour, un 360 degrés. Se détourner, se retourner, c'est aussi le langage des prophètes qui utilisent souvent « revenez à Dieu, détournez-vous de vos péchés ». Et quelque part, devenir chrétien, ou quelque part se convertir à Jésus, c'est avoir un moment ou un autre fait un demi-tour dans sa vie. C'est d'avoir suivi une direction où Dieu n'est pas le maître à 100%, et de se retrouver dans une autre direction où Dieu est le maître de notre vie à 100%. Alors, c'est peut-être pas toujours instantané, c'est parfois progressif. Des fois, on s'en rend compte. Des fois, on s'en rend pas compte. Mais le final, c'est que tu sais que tu marches avec Dieu et que tu es plus dans l'ancienne direction. Et la conversion, ça engage l'être tout entier. L'intelligence, la raison, les sentiments, la volonté, notre désir, notre corps, notre vie tout entière. C'est pas simplement je regrette, j'ai mal agi contre toi. Non, c'est je veux plus vivre comme ça. Mais je veux vivre avec Dieu. C'est un peu marcher dans une direction, et quand on se convertit, on veut plus de cette direction-là. On part dans une autre direction. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils marchent dans une direction, « Oui, Dieu, j'entends ta voix, je sais que tu es là, mais je veux encore continuer ma voie. » Non, quand le chrétien, en tout cas bibliquement parlant, il a un moment donné dans sa vie pris une décision de plus marcher dans cette direction et de marcher dans une direction avec Dieu. Et notez que, on se convertit pas à une religion, même si on peut parler de religion, mais on se convertit surtout à Dieu et à Jésus-Christ. Alors, vous savez, moi je suis né dans une famille où on pratiquait l'animisme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le culte des esprits. On pratiquait le culte des esprits. Je me rappelle avoir vu mes parents et des proches de la famille faire des sacrifices pour les esprits. Et quand j'étais petit aussi, j'allais au catéchisme. Je suis allé au catéchisme de l'Église catholique pendant plusieurs années, mais j'étais pas converti à Jésus. Et puis pendant longtemps, j'allais de temps en temps à l'église parce que mes parents entre-temps s'étaient convertis et je venais sur les bancs de l'église, mais je trouvais ça, je sais pas vous, mais très ennuyant. Et je trouvais ça tellement légaliste, oui, on n'a pas le droit de faire ci, il faut faire ça. Et j'avoue que j'étais pas à l'aise dans l'église. Et je me suis longtemps éloigné des bancs de l'église jusqu'au jour où un pasteur m'a téléphoné et m'a dit, viens Olivier, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu aides le groupe de jeunes. Alors, je lui dis, écoute, si tu veux que je te fais des papiers, tout ça, je vais t'aider, mais ne me parle pas de Jésus, s'il te plaît. Parce que je savais qu'il voulait que je donne ma vie à Jésus. Je le dis comme ça aujourd'hui, mais je savais qu'il voulait me prendre dans ses filets. Et je voulais être plus malin que lui. Il m'a dit, non, viens, t'inquiète pas, je te parlerai pas de la Bible, tout ça, viens. Et puis, je suis parti, et je lui ai dit, je vais t'aider. Alors, je l'ai aidé. Et un jour, il y a une jeune dans l'église qui m'a demandé, écoute, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Alors là, pour être honnête, non. Je savais pas ce que ça voulait dire, accepter Jésus. Elle m'a dit, bon, c'est pas grave, parce que moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Alors, je la trouvais un peu prétentieuse, parce que bon, je me disais, bon, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Et je me rappelle d'une étude biblique qu'on a faite, et qui disait que tous les hommes sont pécheurs, et privés de la gloire de Dieu. Et moi, qui avais toujours cru que je devais être un bon gars dans la vie pour être apprécié de Dieu, j'étais tout à coup tombé des nues. Je me disais, oh, tous les hommes, moi y compris, je me sentais mal. Je me disais, j'avais toujours été quelqu'un de bien, bon, pas parfait, mais plutôt bien. Mais là, quand la Bible disait que tous les hommes étaient pécheurs, moi y compris, j'avais besoin d'un sauveur. Je me suis rendu compte que tout à coup, je marchais dans une direction, toujours avec Dieu, en dehors de ma vie. Et moi, je faisais ma vie comme je voulais, et le bon Dieu était là. Et tout à coup, Dieu me disait, non, cette direction que tu prends, moi, je suis pas dedans. Et il faut que tu changes de vie, il faut que tu te retournes, il faut que tu viennes à moi. Et j'avais besoin vraiment d'un sauveur dans ma vie. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Et le pasteur, un jour, je me rappelle d'un message qu'il avait mis, une croix et il avait dit, voilà, il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés et pour que tu sois pardonné. Et si quelqu'un il veut donner sa vie à Jésus, c'est maintenant ou jamais. Et là, je me suis pas levé, mais j'ai compris que j'avais toujours mené ma vie dans une direction et qu'aujourd'hui, je devais abandonner cette direction. Et je devais changer d'orientation et vivre à 100% pour Dieu. Et que j'avais besoin de ce Seigneur Jésus-là dans ma vie. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'ouvre mon cœur à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que la foi se vit un peu comme une accumulation d'expériences spirituelles qui nous fait du bien. Mais en réalité, la foi, c'est même abandonner tout cela et se donner corps et âme à Jésus, tout simplement. Et la conversion engage notre être tout entier. C'est pas simplement que ça nous fasse du bien ou que ça nous fait pas du bien. C'est avant tout, comme dit le texte, entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, y croire de tout notre cœur et changer complètement de direction pour vivre pour le Seigneur. Et ces gens-là qui sont à Antioche sont appelés chrétiens parce qu'ils ont abandonné toute leur vie passée pour la donner à Jésus tout entier. Eux ont été trouvés dignes d'être appelés chrétiens. Qu'est-ce qu'il en est de vous et de moi? Est-ce que nous poursuivons, on marche toujours, comme tout à l'heure on l'a chanté, mimé, dans une direction et Dieu, bon, on sait que c'est bien, c'est pour... Bon, c'est bien, ça nous fait du bien, il est là. Mais peut-être qu'on continue encore dans notre direction des fois. Et qu'on a sans cesse besoin de revenir tout le temps à celui qui est venu pour nous sauver. Surtout, ne sautons pas cette étape. Ne marchons pas toujours dans notre direction où c'est nous qui menons toujours notre vie. Mais apprenons à revenir toujours à celui qui est venu donner sa vie pour nous. Donc je pense que ces personnes qui sont à Antioche sont appelées chrétiens parce qu'ils ont fait le choix de tout leur cœur de suivre Jésus, de tout leur cœur. Et pas simplement une partie de leur semaine, une partie de leur temps, une partie de leur intelligence ou de leurs sentiments. Mais c'est tout entier qu'ils se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il me semble qu'ils sont appelés chrétiens parce qu'ils suivent l'enseignement chrétien. Ils sont appelés chrétiens parce qu'ils suivent l'enseignement chrétien. Dans les versets 22 à 26, on mentionne que les chrétiens de Jérusalem, ils apprennent qu'il y a des gens qui se sont convertis. Alors, ils sont pleins de joie. Et ils envoient certainement un de leurs meilleurs compatriote, ou un de leurs meilleurs éléments, Barnabas, le fils dit de l'exhortation ou de l'encouragement. Et quand Barnabas, il y va, il est content, il les encourage premièrement, verset 23, à rester fidèles au Seigneur et à tenir dans une ferme assurance. Ensuite, il va chercher Barnabas, verset 24, verset 25, et tous ensemble, tous les deux, pendant une année entière, ils travaillent ensemble, et le verset 26 nous dit qu'ils enseignent toutes ces personnes-là. Alors, le passage mentionne plusieurs critères de la foi. Rester fidèle, être persévérant, tenir ferme, être attaché au Seigneur. Mais je pense que, pour moi, ce qui est fondamental dans la vie de ces personnes-là, c'est qu'elles veulent connaître leur foi, qu'elles veulent grandir dans leur foi, et qu'elles veulent rester attachées à l'enseignement de la foi chrétienne. Et pendant une année, Saul, qui est à ce moment-là, et Barnabas s'attachent à leur enseigne. Et je crois que la formation des croyants, ça reste le critère fondamental qui nous permet de dire que nous sommes chrétiens aussi également. Vous savez, dans beaucoup de religions, tout le monde n'a pas besoin de tout connaître. Il suffit que le chef, hein, le boss, connaisse tout, et les autres, ils ont juste à dire « Amen » ou « à suivre ». Ou bien dans beaucoup de religions, tout le monde n'a pas besoin de tout connaître. Il suffit de faire des rites. Du moment que le rituel est fait, eh bien c'est bon, tout va bien. Ouais. Mais ce n'est pas du tout le cas dans la religion chrétienne ou dans la foi en Jésus-Christ. Tout le monde, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, garçons, filles, peu importe, tout le monde est appelé à connaître ce qu'il croit et à vivre selon ce qu'il croit. La foi en Jésus-Christ est différente. Ce n'est pas réservé à un groupe d'initiés, c'est pas simplement un ensemble de rituels, même si nous avons des rites à caractère religieux, comme le baptême ou la Sainte Cène, mais chacun, chaque croyant, est appelé à connaître en profondeur ce qu'il croit. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la foi en Jésus-Christ, c'est qu'on veut pas cacher. On veut pas cacher ce qu'on croit. On veut le dire. On veut que d'autres le connaissent. Vous savez, il y a dans certaines cultures, les gens cachent leurs secrets. Et quand quelqu'un il a un bon secret, il meurt avec son secret. Et après, le secret il est fini, plus personne. Mais dans la foi chrétienne, en tout cas pour les chrétiens de Jérusalem et d'Antioche, il était fondamental que chacun, chaque personne, sache ce en quoi il croit. Vous savez, souvent on se dit chrétien, on se dit converti à Jésus, mais on ne veut pas connaître la vérité biblique, notre enseignement biblique. Et on traîne avec nous nos philosophies, nos erreurs, ce qu'on croit, et un jour, on se rend compte qu'il y a un truc qui bloque. Ouais. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se former, et on n'a pas pris le temps de s'imprégner des vérités bibliques. En même temps, j'aimerais le dire, je sais pas ici comment c'est, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont trop axées aussi sur la connaissance. Il y a des gens qui, au nom de la connaissance, se prétendent être chrétiens, mais qui se cachent derrière leur connaissance pour d'abord mépriser ceux qui ne connaissent rien et pour enfler tout simplement leur orgueil. Et je crois que nous ne devons pas non plus aussi rentrer sur cette piste-là. Je crois que nous sommes appelés à vivre notre foi, à connaître les fondements de notre foi, mais notre foi ne se résume pas à un tas de connaissances et de doctrines. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que je parlais de Dieu autour de moi, je me suis trouvé tout de suite confronté à des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. D'où viennent les dinosaures, par exemple? Est-ce que Dieu il a fait le monde en 7 jours? C'est quoi les adventistes? C'est quoi le millénium? Jésus, comment Dieu peut mourir à la croix? Et là, je me suis dit, mais si je veux annoncer l'évangile aux gens, que je connais pas ce que je crois, comment est-ce que je peux parler de Dieu aux gens? Et je suis tombé sur un passage biblique tout simple, de Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit que toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, réfuter, reprendre, et pour nous enseigner à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et tout homme est alors préparés, parfaitement préparés pour servir le Seigneur. Et là, je me suis dit une chose, si je veux servir Dieu de tout mon cœur, tout ce que j'ai à faire, c'est d'apprendre la parole de Dieu. Et alors, j'ai rencontré mon épouse, et j'ai dit, chérie, tu crois pas que on devrait peut-être prendre le temps pour aller se former quelque part pour servir Dieu? Et elle m'a dit, vas-y, je te suivrai. Alors, on est parti un an à Nogent, à l'Institut biblique, et au bout d'un an, je lui ai dit, chérie, tu crois pas qu'on devrait peut-être continuer encore? Elle m'a dit, vas-y, je te suivrai. Alors, on a fait les 3 ans à Nogent, et au bout de 3 ans, je lui ai dit, chérie, tu crois pas que on peut encore se former encore? Elle m'a dit, vas-y, je t'encouragerai. Et puis après, on est parti à la faculté. Et puis voilà, enfin, de bout en bout, et j'étais jeune converti, j'avais tout à apprendre, des chansons, des histoires de la Bible, etc. Et cela a fait j'ai fait ma formation, on va dire, initiale, parce que vous savez, il y a toujours une formation initiale dans la vie du chrétien et une formation continue. Ouais. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez une formation initiale, il faut envisager la formation continue. Qu'est-ce que je dois faire après encore et encore? Parce que la vie chrétienne est une formation continue. Ouais. Et on doit toujours constamment chercher à se former encore et encore pour connaître Dieu. Vous savez, bientôt, nos églises vont manquer cruellement de pasteurs. Parce que beaucoup vont être à la retraite. Bon, Daniel, peut-être bientôt, mais t'es encore jeune, Daniel. Mais vous savez ce que je dis toujours dans mon église? Où est-ce qu'on va chercher les pasteurs? Vous croyez qu'on va aller les chercher dehors? Ah non, faut pas, faut. Les pasteurs, ils sont là, dans nos 4 murs, là. Les 4 coins de mur. Ils sont là, assis. Mais il faut y aller, là. Il faut y aller par la foi. Et oui, bien sûr, on va être pauvre. Oui, bien sûr, on va manger tous les jours des patates. Mais si vous allez pas vous former, vous aurez jamais de personne formée. Et une église, elle peut pas aller plus loin que la personne qui s'est formée pour l'accompagner. Celui qui se prétend chrétien, il doit se préparer, se former pour pouvoir servir le Seigneur dans l'église. Et si vous savez pas comment commencer, donc c'est entre vous et le Seigneur, mais si vous avez l'intention de partir, il faut en parler à votre pasteur. Discuter avec lui, prier, parce que tout le monde n'est pas appelé non plus à un service à plein temps, mais chacun est appelé à se former, bien sûr. Alors, sautez sur toutes les occasions qui vous sont données pour pouvoir apprendre quelque chose et l'utiliser ensuite dans l'église. En tout cas, les gens qui sont à Antioche sont dignes d'appeler chrétiens parce qu'ils se sont formés et ils ont été enseignés dans ce sens-là. Vous et moi, qui prétendons être chrétiens, sommes-nous dignes aussi d'être appelés chrétiens comme ces premiers croyants à Antioche? C'est une véritable question, un enjeu fondamental pour nos églises, d'avoir des personnes formées. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de formation dans l'église, et je suis persuadé que il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites. Mais il reste encore un niveau qu'il faut atteindre. Celui d'être consacré pleinement à la formation et au service de Dieu. Donc, premièrement, je pense qu'ils sont dignes d'être appelés chrétiens parce qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ. Et deuxièmement, ils sont appelés chrétiens parce qu'ils suivent l'enseignement chrétien. Et troisièmement, je pense qu'ils sont appelés chrétiens parce qu'ils sont une bénédiction pour les autres. Ils sont une bénédiction pour les autres. Dans le passage que nous avons lu, on voit que les chrétiens de Jérusalem envoient Barnabas et Paul pour aller encourager les chrétiens d'Antioche. Et ensuite, versets 27 à 30, à cette même époque-là, des prophètes se rendent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, Agabus, il prédit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint une grande famine. Et c'est ce qui arrive. Et que se passe-t-il, versets 29 et 30? Les disciples d'Antioche, ils décident alors de donner chacun selon leurs moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitent la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Les chrétiens d'Antioche ont reçu des bénédictions de Dieu et des frères en Christ, Barnabas et Saul. Mais à leur tour, ils veulent être une source de bénédiction pour les autres croyants qui sont dans le besoin. Et on rappelle que, à ce moment-là, que la foi et les œuvres sont intimement liées dans la Bible. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, il y a forcément les œuvres qui découlent de notre salut. Mais bien souvent, on prétend être sauvé, et ça s'arrête là. Le salut est bloqué en nous, c'est comme un robinet fermé, et toute bénédiction semble presque... ça coule peu, ça coule pas beaucoup. Mais dans le passage que l'on voit, ces chrétiens, en tout cas, ils sont dignes d'appeler chrétiens, parce que ce qu'ils ont reçu, ils le transmettent à d'autres. Cette idée de transmission n'apparaît pas que dans le livre de Actes. D'abord, Abraham lui-même a été appelé pour être une bénédiction pour les nations. Israël a été choisi pour être une bénédiction envers les nations. Et chaque personne qui se donne au Seigneur Jésus-Christ est appelée à son tour à être une bénédiction pour les autres. D'abord pour son foyer, ensuite pour son église, et ensuite pour les gens qui habitent autour de nous. Et je crois que tous ceux qui prétendent être chrétiens doivent se réfléchir comment est-ce que moi, je peux être une bénédiction pour d'autres. On n'est jamais dans notre coin, mais on doit chercher à être une bénédiction pour soi, pour l'Église et pour le monde. Alors vous allez dire, oui, mais comment on fait ? Comment on fait ? Dans l'exemple que nous avons vu, c'était de l'argent. Moi, je dis souvent aux gens qui sont à l'Église, je dis, si tu as de l'argent, tu peux donner de l'argent. Si tu as de l'énergie, tu peux donner de l'énergie. Si tu as des connaissances, tu peux bénir les autres par tes connaissances. Si tu as beaucoup de matériel, tu peux bénir les autres par du matériel. Si tu n'as rien du tout, tu peux toujours prier pour les autres. On peut toujours être une source de bénédiction pour les uns et les autres dans l'Église. La grâce de Dieu ne doit jamais s'arrêter à nous, mais elle doit toujours être une bénédiction les uns pour les autres. Comme j'ai déjà dit à ceux qui viennent au cours FBA, ma vision du ministère, en tout cas notre vision du ministère, devrait être que nous devrions être des disciples qui font d'autres disciples. Si tu es disciple du Seigneur Jésus, si tu es chrétien, il va falloir que cet amour que tu as reçu dégouline quelque part sur d'autres personnes qui vont devenir chrétiens aussi. Deuxièmement, nous devons être des leaders qui font d'autres leaders. Si tu es un responsable ou un leader dans l'Église, cela ne doit jamais s'arrêter à toi. Mais tu dois pouvoir accompagner d'autres personnes à être un leader aussi dans l'Église. Un leader, un bon leader, c'est pas celui qui fait tout bien, mais c'est celui qui fait en sorte que tout se fasse bien et que la bénédiction ne soit pas que en lui, mais qu'elle arrive à d'autres personnes. Troisièmement, la bénédiction, si nous sommes une église, nous devons pouvoir implanter d'autres églises. Et que la bénédiction de Dieu ne doit pas s'arrêter que dans nos quatre murs de l'église, mais qu'elle doit se poursuivre au-delà de nos murs dans d'autres implantations d'églises encore et encore. Et je crois que ça, ce sont nos leitmotivs pour nous aider à ce que nous soyons quelque part dignes et encouragés à être nous-mêmes des chrétiens. Qu'est-ce qu'être chrétien au sens biblique du terme aujourd'hui ? Est-ce simplement, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le dictionnaire, voilà, quelqu'un qui suit la religion du Seigneur Jésus-Christ ? Ou on peut répondre par d'autres synonymes, les disciples, ceux qui sont saints, ceux qui sont élus. Non, ces personnes-là, qui étaient Antioche, étaient dignes d'être appelées chrétiens, parce qu'elles avaient trois choses de fondamentales dans leur vie. Tout d'abord, elles ont vraiment renoncé à une vie passée pour se retrouver devant leur Seigneur et leur Sauveur et leur dire, c'est ce chemin-là que je veux suivre. Et ils ont donné toute leur vie à Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie ou dans votre foi. Peut-être qu'on est presque retourné. Mais qu'un jour, il va falloir faire ce choix fondamental de donner toute notre vie à Dieu, de tout notre cœur. Ensuite, ils ont suivi l'enseignement de chrétiens, ils se sont formés, ils ont suivi l'éducation chrétienne. Et nous aussi, quelque part. Si nous nous prétendons être chrétiens, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on se donne de notre temps et de notre argent et qu'on fasse les plus grands sacrifices pour pouvoir se former pour notre Seigneur. Et troisièmement, elles ont été une bénédiction pour les autres, pour les croyants en particulier, et très certainement les non-croyants aussi. Et chacun d'entre nous, là où nous sommes, en tant que disciples, leaders et églises, nous sommes appelés à être une bénédiction pour les autres également. Comme le disait le grand théologien Saint Augustin, nous ne naissons pas chrétiens, mais nous le devenons. Que chacun d'entre nous se place face au texte de la parole de Dieu et que l'on s'examine nous-mêmes pour voir là où on en est et que le Seigneur nous dirige chacun et chacune à prendre les décisions qui lui plaisent et qui feront avancer nous et notre Église pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse chacun et chacune. Je vais prier. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, tu nous appelles ce matin encore à réfléchir sur qui nous sommes et sur ce que toi tu attends de nous, Seigneur. Toi, Seigneur, tu es venu nous sauver, nous aider, nous arracher de notre péché, de la mort, pour que nous t'appartenions. Et aujourd'hui encore, tu nous appelles à donner notre vie, à te consacrer notre vie tout entière, à te servir, à être formé, à être une bénédiction pour les autres. Seigneur, tu connais la vie de chacun d'entre nous ici et nous voulons juste te demander de nous aider à faire toujours un pas de plus vers l'avant pour toi. Seigneur, tu sais ce qui peut nous bloquer, notre orgueil, les obstacles de la vie. Et nous te prions que ton Esprit Saint nous renouvelle et nous transforme encore pour que nous puissions avancer et nous consacrer à toi. Bénis chacun d'entre nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.